Bonjour, nous faisons donc un projet radio à la galerie et nous venons vous poser des questions au sujet du théâtre. Nous sommes des adolescents, nous résidons à Noisy-le-Sec, nous connaissons le théâtre, donc on a vu des spectacles avec notre école et on voudrait en savoir plus sur le théâtre.
Moi je suis Élise Aignon, je suis responsable de la communication et des relations publiques au théâtre des Bergeries, c'est-à-dire que je m'occupe de mettre en place tous les outils de communication qui vont informer le public de ce qui se passe au théâtre. Donc il y a une brochure de saison, des programmes de salles pour tout ce qui est papier, des affiches, des bâches sur la façade du théâtre. Il y a tout ce qui est outils numériques aussi. Donc on a un site internet, un blog, une page Facebook et autres réseaux sociaux que vous connaissez certainement, Instagram, Twitter. Et la partie relations publiques, eh bien, c'est la partie qui concerne, comme le dit le nom, les relations avec le public. Et notamment toute une partie d'actions artistiques qu'on mène avec les spectateurs, de rencontres avec les artistes, d'ateliers pratiques de théâtre, de danse, plein de projets qu'on invente à chaque fois avec les compagnies qu'on accueille chaque saison.
Quel type de spectacle pouvons-nous trouver dans le théâtre des Bergeries ?
Alors cette saison ou la saison prochaine ?
Cette saison et en général.
D'accord. Simplement. Parce qu'en fait, moi je suis arrivé au mois de septembre, ce qui fait que j'ai accompagné la saison qui avait été bâtie par l'équipe. Et à partir de septembre prochain, il y aura donc ma programmation. Mmh. Et ça pourrait être très différent de cette saison. Bon, il s'avère que c'est un petit peu vraiment dans le prolongement, dans le développement. Et au niveau du nombre de spectacles, il y a à peu près 37 spectacles. Que l'on dit pluridisciplinaire, ça veut dire que ce n'est pas un choix d'une seule discipline comme le théâtre ou la danse. Il y aura du théâtre, de la danse, de la musique, du cirque, de la magie.
Comment faites-vous pour convaincre des artistes connus de venir dans ce théâtre ?
Chaque jour, je reçois, on va dire, de 50 à 100 invitations. Donc ça veut dire beaucoup de mails, beaucoup de travail à l'ordinateur pour prendre des décisions, pour voir quel spectacle. Ça veut dire voir 2, 3, 4 spectacles par semaine. Et à partir des spectacles vus, il y a une sélection qui est faite et pour programmer les artistes.
J'ai vu que vous avez fait un spectacle sur Claudia Tagbo il y a un an, je pense. Et si par exemple un artiste vous a plu, son spectacle vous a plu, est-ce que son spectacle peut être renouvelé dans le temps ou en quelque sorte ?
C'est-à-dire, est-ce qu'elle pourrait revenir ?
Oui, elle pourrait revenir avec d'autres spectacles.
Est-ce que tu avais bien aimé son spectacle ?
Oui.
C'est ça ?
Oui.
Alors, si on fait revenir une artiste, c'est généralement avec un autre spectacle.
Mm-hmm.
Dans le cas des humoristes, ils en créent pas chaque année. Souvent, quand ils créent un spectacle, ça leur prend un certain nombre de temps. Et ils le tournent pendant 1, 2, 3 ans. Ce qui fait que ça demande de revoir son nouveau spectacle. Et s'il est bon, parce que c'est pas, même si un humoriste est très connu, a une notoriété, il peut, comme tout le monde, ne pas créer un très bon spectacle. Donc j'ai dit que s'il est bon, il peut être programmé.
Avez-vous déjà eu des conflits avec des artistes ?
Alors des conflits, c'est peut-être pas le bon terme, mais disons des difficultés relationnelles parfois, sachant que les artistes, ce sont des gens qui sont très libres, qui au niveau de leur psychologie, comme ce sont des créatifs, ce sont des gens imprévisibles. Et ce qui fait qu'ils sont des fois difficiles à gérer. Parce qu'on leur dit certaines consignes, et eux, en tant qu'êtres humains libres, en tant qu'artistes, ils n'écoutent pas spécialement, et ils veulent faire comme ils ont envie de le faire.
Quelle est la durée maximale d'un spectacle ?
Ça peut aller d'un spectacle jeune public qui dure 25 minutes parce que c'est pour des maternelles. Et les maternelles, 3-4 ans, ça ne peut pas être attentif plus que ça. Jusqu'à des spectacles qui durent 4 heures. Il y a même des spectacles qui durent 10 heures. au Festival d'Avignon, c'est déjà arrivé d'arriver en milieu d'après-midi. Il y a différentes pauses, hein, mais des spectacles qui durent 10 heures. Mais il n'y en aura pas au théâtre des Bergeries, parce que déjà 4 heures, c'est déjà long pour des spectacles de Shakespeare. Pour moi, 2 heures et demie, c'est le grand maximum.
Est-ce que pour choisir un spectacle, vous regardez le spectacle ou vous choisissez un comédien et vous l'aidez à améliorer le spectacle ?
Améliorer le spectacle, ça veut dire faire de la mise en scène. Moi, je ne suis pas metteur en scène, je suis programmateur. Directeur de théâtre, et parmi les fonctions de directeur, il y a la fonction de programmateur. Donc ça veut dire choisir des spectacles qui sont créés. On va les voir. On peut faire des remarques au metteur en scène, à l'artiste, sur certaines choses qu'on a aimées ou qu'on n'a pas aimées. Ceci dit, le spectacle tel qu'on l'a vu, on le programme et on n'a pas à le modifier.
Combien de personnes, et précisément qui, sont en relation avec le comédien ou la comédienne ?
Accueillir un spectacle, ça concerne beaucoup de monde et beaucoup de fonctions. Dans l'équipe du théâtre, il y a 16 personnes qui sont embauchées à temps complet. Ça va de la fonction de direction, d'administration, toutes les personnes qui s'occupent de la communication. Parce qu'accueillir un spectacle, il ne suffit pas de dire « voilà, il y a tel artiste qui est au théâtre des Bergeries, puis on attend ce qui se passe ». Il faut communiquer par voie écrite, par la plaquette, mais aussi par Internet, par tous les réseaux sociaux, par les affiches. Donc il y a vraiment beaucoup de personnes au niveau des relations publiques. Et puis beaucoup de personnes au niveau de la technique, parce qu'accueillir le spectacle est proposé avec une fiche technique au niveau de la lumière, au niveau du son, au niveau du plateau. Et donc il faut ces personnes. Et il y a beaucoup de spectacles qui nécessitent des personnes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on prend des intermittents, on arrive au total globalement à 16 personnes.
Comment avez-vous convaincu le comédien connu Baptiste Le Caplain à venir au théâtre des Bergeries ?
Alors c'est pas moi qui l'ai programmé, c'est Clément. Qu'il a vu le spectacle sûrement il y a 2 ans, parce que généralement, quand on programme, c'est pour la saison prochaine. Donc il a dû le voir il y a 2 ans. Après avoir vu et donc apprécié le spectacle, on se met en relation non pas avec l'artiste, mais on se met en relation avec son agent. Ça, c'est pour les humoristes, mais et pour les compagnies, c'est souvent avec les administrateurs ou les chargés de diffusion. Et on dit que le spectacle nous intéresse. Il nous renvoie dans ces cas-là les conditions, comme on dit, financières, c'est le coût du spectacle, et technique, c'est-à-dire la fiche technique dont je parlais tout à l'heure. On décide si c'est possible. Généralement, on trouve ça cher, donc on négocie un petit peu. Et puis après, il faut aussi trouver une date possible dans la future programmation.
Est-ce que les effets spéciaux et décors vous coûtent cher ?
Effectivement, selon certains spectacles. Alors, les effets spéciaux, c'est peut-être plus au niveau, au niveau lumière par rapport à certains concerts. Ça peut être un coût relativement important. Ça s'appelle des coûts de location. Ça veut dire qu'un spectacle, ce n'est pas uniquement son coût. Comme je parlais de tout à l'heure, on dit que c'est le coût de cession. Cession, c'est la vente. Mais là-dessus, il faut rajouter tous les coûts d'accueil. Les comédiens, lorsqu'ils arrivent, ils ont envie de manger. Et puis, ils ont envie de dormir parce que souvent, ils viennent de province. Donc ça veut dire des hôtels. Et puis il y a les fameux coûts techniques. Et ça, c'est le régisseur général qui doit faire ce travail, évaluer le nombre de personnes nécessaires. Et si on n'a pas le matériel, parce que quand on dit effets spéciaux, souvent c'est du matériel très cher et que l'on n'a pas toujours, il faut le louer. Et ça peut aller jusqu'à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 francs, 4 000 euros en plus du coût du spectacle.
Quand vous logez les comédiens, humoristes et compagnie, est-ce que c'est proche de Noisy ou c'est un peu plus loin
Moi, je ne suis pas allé, mais le théâtre est en part, partenariat avec un hôtel qui est sur la route de Pantin. Et on a un tarif un petit peu privilégié à partir du moment où on leur envoie tous nos artistes qui ont besoin de dormir.
Faites-vous ici les concerts ?
Le théâtre a plus une programmation au niveau du théâtre. Il y a une dizaine de spectacles sur 37. Beaucoup au niveau de la danse, il y en a 5-6. Et quelques concerts aussi. Mais ce n'est pas une salle vraiment dédiée aux concerts, notamment de musique actuelle. Parce que là, dans ces cas-là, ça nécessite on appelle ça des SMAC, des salles un petit peu plus adaptées aux concerts.
Avez-vous un budget précis pour un spectacle ?
Alors, on a un budget précis pour l'ensemble des spectacles. Mais par contre, pour un spectacle, non. Mais ça peut, pour te donner une fourchette, ça peut aller de 1000 euros sur un spectacle où il y a peu de comédiens. Moi, je me donne comme maximum 15 000 euros.
Les décors sont-ils commandés auprès d'un particulier ?
Non, c'est la compagnie qui vient avec
ses décors.
Avec son décor. Et ce qui fait que ça entraîne des coûts supplémentaires parce qu'il faut des camions pour transporter tous les décors. Ce qui fait que beaucoup de metteurs en scène limitent un petit peu les décors et font en sorte qu'ils ne soient pas trop importants. Parce que sinon, le spectacle est plus difficile à tourner. Sachant que lorsqu'un metteur en scène crée un spectacle, son objectif, ce n'est pas de le jouer une fois, deux fois, c'est de le jouer le plus de fois possible. Parce qu'il investit beaucoup d'argent. Et ça veut dire qu'il faut que le spectacle puisse être rentable, entre guillemets, il faut le jouer 15, 20, 30, 50, 100 fois. Je dis ça parce que c'est important que vous compreniez la prise de risque des artistes. C'est-à-dire qu'ils choisissent un projet, ils misent sur quelque chose qu'ils ont envie de communiquer, mais ils misent aussi beaucoup d'argent, souvent de subventions, mais aussi d'argent personnel. Et il arrive que des spectacles, même s'ils sont de bonne qualité, ne plaisent pas au public. Et dans ce cas-là, effectivement, ils ne tournent pas. Et s'ils ne tournent pas, eh bien, l'artiste a perdu beaucoup d'argent.
Faites-vous des castings pour rechercher des jeunes talents et comment ça se passe ?
Alors, ce n'est pas moi qui fais le casting, c'est le metteur en scène. Parce que moi, comme je vous l'ai dit, je vois le spectacle qui est terminé. C'est le metteur en scène, lorsqu'il choisit, on va dire un metteur en scène de théâtre, lorsqu'il choisit un texte, va imaginer des comédiens, des comédiennes qu'il connaît pour tel rôle. Mais des fois, ça ne suffit pas, ce qui fait qu'il fait des auditions, des castings, où il voit sur une journée 100 personnes, 200. Pour en choisir un ou deux. Et ça, c'est un choix qui est très difficile et les décisions sont pas évidentes parce que c'est souvent fondamental sur la qualité du spectacle.
Est-ce que vous pouvez nous donner la signification du logo du théâtre, ce triangle avec trois couleurs ?
En fait, chaque saison, on crée une communication vraiment spécifique à la saison. On travaille avec un graphiste. C'est quelqu'un qui est un créatif et qui va imaginer, comme vous le voyez, des images, des couleurs, la mise en page des documents et aussi donner comme ça une identité à la structure. Là, donc nous, on l'oriente un petit peu sur ce qu'on veut laisser entendre par là. On lui donne... il sait que nous, on a envie de communiquer sur un lieu accessible à tous, à la fois dynamique, où on se divertit, où on trouve du plaisir, un lieu accueillant, chaleureux. Donc à partir de tous ces éléments-là, très diversifiés aussi, parce que dans la programmation, il y a toutes sortes de spectacles, toutes les disciplines du spectacle vivant. Et donc avec tout ça, il nous fait des propositions. Et donc là, sur cette saison, c'est la proposition qu'il nous a faite. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a un signe graphique sur la couverture, qui est un signe assez fort, hein, ça dirait une pyramide. Mais ça reste un élément abstrait. Après, chacun peut y voir ce qu'il a envie. L'idée, c'est aussi d'ouvrir sur l'imaginaire, parce que Le spectacle, c'est ça aussi, c'est des artistes qui montrent leur vision du monde, mais qui travaillent aussi l'imaginaire. Donc c'est que chacun puisse trouver sa petite porte d'entrée et s'approprier le lieu et les spectacles comme il a envie, de laisser la liberté au spectateur de trouver, de voir ce qu'il a envie.
Ouais, plus une forme un peu comme un origami qu'on aurait posé sur une feuille en fait de deux couleurs, rose et enfin un dégradé de couleurs, voilà. Et voilà, je vois un origami, simplement.
Et une autre proposition ?
Moi, je vois une scène avec les lumières de bas. Enfin, les lumières.
Ouais. Une scène.
Moi, je vois un triangle en 3D.
Ouais, tout à fait. Il y a l'idée de perspective. Ouais.
Une pyramide.
Et là, derrière, vous avez l'affiche derrière vous, qui est dans des tonalités de couleurs un peu semblables, c'est-à-dire très vives, mais c'est une autre forme. Et ça évoque autre chose encore.
Je vois deux choses, en fait. Je vois un coucher de soleil, et je vois aussi un ballon posé sur l'eau. Et il y a le reflet du ballon qui est dans l'eau jaune, bizarrement.
Il y en a plein d'autres à l'intérieur. Donc voilà, vous voyez, rien qu'en quelques... autour de deux visuels, tout ce qu'on a pu se dire. Donc voilà, cette idée-là de laisser rêver.
Et moi, je vois le monde. Et ça me fait penser à Shakespeare qui disait que le théâtre est comme est un monde où tout le monde joue.
En fait, j'aimerais savoir quelles études vous avez fait afin de devenir directeur de théâtre.
Alors, les directeurs de théâtre ont des parcours totalement différents. Il y en a qui sont d'anciens metteurs en scène. Il y en a qui sont des purs administratifs qui ont fait des grandes écoles, peut-être pas Sciences Po, mais des écoles d'administration, des écoles de commerce. Et moi, je suis un peu des deux. J'ai été comédien jusqu'à l'âge de 30 ans. Après, j'ai été administrateur de compagnie, et puis administrateur de lieu, directeur de lieu, en ayant, en même temps que je travaillais, suivi des études d'administration et de gestion d'entreprise culturelle.
Là, actuellement, la salle est occupée et en fait, on a des gens qui travaillent, qui sont des intermittents du spectacle, des techniciens, qui sont en train de préparer le plateau et la scène, donc de faire un montage pour une manifestation qu'on a la semaine prochaine qui s'appelle Lire-Dire. Et notamment aussi le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse. Si ça vous intéresse, vous serez bien sûr les bienvenus. En fait, c'est un temps fort sur les textes de théâtre écrits pour la jeunesse, justement. Et tout au long de l'année, il y a 10 classes qui suivent un projet, donc des écoles de Noisy-le-Sec, autour des textes contemporains écrits pour la jeunesse, qui découvrent ces textes, qui les lisent, et qui les mettent en voix avec des comédiennes. Et ils choisissent un extrait et ils viennent lire cet extrait sur la scène du théâtre devant les autres classes qui ont fait le même projet. Et chacun leur tour, ils se lisent leur texte. Et donc, voilà, il y a une petite disposition particulière. Donc, il y a montage des projecteurs, il y a un écran en fond de scène parce qu'il y a des images, des textes écrits. On se repère sur quels textes sont lus. Il y a un petit visuel sur... la manifestation.
Et ce diapo qui est juste là, il est tout le temps là ou...
Non. Ça fait partie du matériel qu'on a au théâtre, mais qui n'est pas du tout, enfin, qui n'est pas utilisé à chaque fois. En fait, ça dépend vraiment des spectacles ou des manifestations qui sont accueillies.
Là, c'est la ligne de lumière qui est descendue, c'est ça ?
Là, c'est une perche, mais je pense qu'on va pouvoir monter sur le plateau pour que vous puissiez voir le grill. Puisqu'il y en a plein. Il y en a plein. Là, tous les pendrillons et qui sont accrochés, ce qu'on appelle les pendrillons, les rideaux que vous voyez, en fait. Levez la tête, vous allez voir ce qu'on appelle le grill, c'est-à-dire là où on fixe, où les perches montent, qui permettent de fixer des éléments de décor aussi. Parfois, il y a des éléments de décor qui sont accrochés sur les perches et descendus pendant le spectacle. Évidemment, quand on est spectateur, on ne voit pas tout ça. Pour créer la magie du spectacle, il ne faut pas voir tout cet envers du décor.
On vous présente Nicolas, qui est un des régisseurs.
Bonjour, enchanté. Okay.
Alors, quelle est ta fonction ?
Alors, régie plateau.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire, régie plateau ?
Régie plateau, c'est tout ce qui concerne le décor, plateau, Donc la sécurité, on parle tout le temps de sécurité, c'est la mode. Sécurité au travail, quand on monte les décors, les adaptations. Les adaptations du décor éventuellement qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne dans le lieu. Tous les lieux sont différents, tous les théâtres sont un peu différents. Il y a toute l'installation de toute la draperie là, qu'on est en train de finaliser, c'est-à-dire les velours noirs qui servent à la fois... ça parle en même temps. Ça sert à la fois à cadrer en fait, l'espace et aussi à faire disparaître toute la coulisse, tout ce que le spectateur...
tout ce qu'il ne faut pas voir.
Tout ce qu'il ne faut pas voir. Voilà. C'est un travail aussi en commun avec la lumière. Ça peut arriver que la lumière éclaire les pendrillons de manière volontaire ou pas, mais si on les éclaire pas, du coup, comme c'est une matière velours très noire, ça absorbe énormément la lumière et le son aussi. Et du coup, ça fait disparaître un peu tout l'espace qui est pas intéressant, quoi. Et ça cache aussi l'espace technique de la coulisse, et puis tout le travail qui pourrait être fait en coulisses des artistes, cacher tout ce qui n'a pas besoin d'être vu. Quoi.
Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes techniques au niveau de la sécurité.
Il y a eu un accident il y a longtemps. C'était probablement dû aussi à un manque de vigilance. Mais bon, c'est vrai qu'on on travaille, on peut être amené à travailler dans le noir, on peut être amené à travailler dans des ambiances sonores un peu fortes. Donc ça complique la communication, ça complique la façon de percevoir, de voir ce qui arrive. Donc on peut être amené à travailler avec de la charge, avec des choses qui sont très hautes, des mouvements des objets de décor qui sont très hauts. Donc potentiel de risque.
Y a-t-il un danger d'être régisseur Y a-t-il un danger,
C'est pas un métier particulièrement dangereux, voilà, surtout.
Et c'est quoi
les parties quand même des métiers où il y a un des métiers où il y a le plus d'accidents de travail. Je pense quand même que ça se...
Il
faut mesurer le risque quand même.
C'est vrai qu'il y a toujours un risque à mesurer. Et c'est pour ça qu'on vous a dit de rester à l'avant-scène, parce que là, derrière, ils sont en train de monter de la technique. Donc, on soulève des charges, il y a des mouvements de charges. Donc, il y a un potentiel de risque, mais plus en termes de montage dans la partie, dans le moment technique. Une fois que les artistes viennent pour répéter au plateau... Ouais,
super. Vous imaginez, il ne faut mieux pas se mettre en dessous, là. Parce que d'un seul coup, il y a la perche qui tombe, les projos qui tombent.
En plus, c'est des fils un peu... Enfin, c'est tout petit, en fait.
C'est très solide.
Le câble acier, c'est très solide.
C'est très, très solide.
Et c'est quoi les études pour devenir régisseur? Quel moyen on peut devenir?
Il y a beaucoup de stages. Alors, quand on a fini le cursus, un cursus scolaire plus ou moins standard, Il y a des écoles qui préparent, ça va des écoles supérieures, il y a le TNS par exemple à Strasbourg, qui forme à la fois des artistes et des scénographes, des comédiens et des techniciens, qui a formé les futurs régisseurs qu'on va accueillir en compagnie, quoi, sur compagnie. Après, il y a des écoles techniques à Lyon, il y a l'ENSAT, l'ancienne Rue Blanche à Paris, enfin, et puis d'autres écoles qui forment plus ou moins de temps suivant le...
Mais beaucoup de stages aussi. Et en fait, c'est des personnes qui se forment toute leur vie, qui ont besoin de continuer de se former parce que la technique évolue.
Okay. Voilà. Ouais.
On va voir les loges ?
Oui, j'ai pu remarquer que vous avez un walkie-walkie.
Oui.
Est-ce que vous êtes en permanence relié avec vos collègues en cas de risque, vous vous promenez tous ?
Ah bah oui, voilà, on est relié en permanence. Alors ça aide à communiquer plus facilement, comme le bâtiment est un petit peu grand, on gagne du temps, puis on gagne des efforts, enfin dans la communication et aussi, ça sert aussi à la sécurité. Mmh. S'il y a un problème quelconque, on est tous avertis en même
et
temps.
Vous, est-ce que vous avez, on va dire, l'obligation de jamais éteindre votre technologie?
Quand il y a un spectacle, oui, on a l'obligation de l'avoir et puis d'être prêt en permanence. Après, en période de montage comme ça, c'est mieux. Okay. C'est pas...
Ça permet aussi de... Le bâtiment est grand, donc ça permet aussi de communiquer plus facilement sans être obligé toujours de descendre et de monter les escaliers, par exemple, ou pour les gens qui sont vraiment...
Voilà, une loge, en fait, c'est la plus grande. Donc c'est là que les artistes peuvent se reposer, se préparer. Et on a voilà, des loges à cet étage-là. Myriam, qui est agent d'accueil et de sécurité ici au théâtre, fait beaucoup pour aussi entretenir le bâtiment avec l'équipe, gérer toute une partie de l'activité aussi, parce qu'il faut gérer les stocks au théâtre, quand on accueille les artistes, vous voyez, là, on dispose du catering pour bien les accueillir, donc c'est Myriam aussi qui gère ça, qui met à la disposition des artistes tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils se sentent bien ici, qui veille à ce qu'ils trouvent des serviettes propres pour leur douche,
de quoi grignoter,
avoir de l'énergie,
ouais. Et au long de votre, depuis que vous êtes ici, est-ce que vous avez eu droit à des artistes un peu, on va dire, exigeants?
Exigeants, non. Par contre, oui, ils ont des petites demandes particulières. Il y en a qui veulent pas manger avec nous, qui veulent un catering bien spécifique, ou un petit repas léger. Anne Romanoff, par exemple, nous a demandé une petite assiette de poisson avec du fromage. Voilà, c'est ce genre de petites demandes spécifiques, en fait.
Et est-ce que vous êtes dans le droit de refuser un
C'est sur le contrat. Hein.
C'est un peu compliqué. Logiquement, c'est dans le contrat. Par contre, il y a eu des demandes, parfois, qui n'étaient pas dans le contrat. Et on peut refuser, mais bon, quand c'est dans nos...
Si on peut,
on le fait, voilà.
Si c'est une bouteille de vin à 200 euros, non.
Non, voilà. C'est pas du champagne non plus, on ne fournit pas d'alcool.
Quand même l'argent du contrat.
Mais voilà, si c'est des petites demandes d'un chocolat particulier, par exemple, il y a des artistes qui aiment le chocolat à 75% de cacao, ni moins ni plus, donc il faut leur acheter leur petite tablette de chocolat.
Est-ce que certaines personnes viennent avec leur coiffeuse, leur maquilleuse et tout?
Ouais, ça peut arriver. On a reçu dernièrement Richard II, où là, auquel cas, elles avaient leur habilleuse et elles avaient leur maquilleuse aussi. Ouais.
Voilà. Et vous, est-ce que dans l'enceinte du théâtre, vous fournissez des fois des coiffeuses
Des habilleuses, oui. Essentiellement. Des habilleuses. Ouais. Quand on a une demande spécifique, parce que les compagnies n'ont pas spécialement d'habilleuses, ils demandent au théâtre, via le contrat, d'avoir une habilleuse. Donc nous, on prend une habilleuse intermittente.
Mmh. Voilà. Ça fait partie des coûts supplémentaires au contrat.
Et au niveau du contrat, il faut le faire combien de temps avant de venir?
Généralement, on essaye un an avant. Oui. C'est-à-dire que l'idéal, ça serait que là, en juin et septembre, on ait signé tous les contrats de la future saison, qui a lieu de début octobre à fin juin.
Oh, mais ça serait trop bien de devenir comédienne. Et surtout, moi j'aimerais beaucoup.
D'accord.
Même si j'ai pas des talents de comédienne, enfin je pense pas.
Ça s'apprend, hein, pour faire des cours de théâtre, et c'est après c'est un travail. Mmh. Hein.
Mais comment... je sais pas comment expliquer ma question, en fait. Est-ce que c'est dur de faire vos rôles, en fait,
Non,
facile tous les jours.
Nos rôles, d'accord. Mais moi, je vais être très par rapport aux comédiennes. Okay. Parce que, effectivement, le travail de comédienne, de comédien, c'est un travail de longue haleine qui est, on va dire, difficile. Il ne suffit pas d'être doué, de jouer. Ça demande beaucoup de travail. Mais le plus difficile, c'est de trouver du travail. Ce qui fait que c'est bien que tu rêves. C'est l'âge où on rêve le plus, et si tu as envie de vivre le rêve, va jusqu'au bout. Mais ceci dit, il faut savoir qu'on vit dans une période de plus en plus difficile, où au niveau des spectacles vivants, il y a moins en moins de subventions, et c'est devenu de plus en plus difficile pour les artistes de créer des spectacles, de trouver de l'argent. Avant, on pouvait créer un spectacle en une année. Maintenant, il faut 2 ans pour trouver l'argent pour monter un spectacle. Et après, il faut les répétitions, etc. etc. Et après, il faut réussir à tourner le spectacle. Et c'est pareil, c'est de plus en plus difficile.
Mais
ce qui fait qu'il faut être conscient de ça. Mais là, je parle, j'en profite pour lui dire. Mais sinon, nos rôles à nous, ils sont très difficiles également. C'est quoi la difficulté de ton rôle ?
Moi, la difficulté de mon travail, c'est que j'ai 2 travails. Moi, essentiellement, mon premier travail, c'est d'être SIAP, donc agent de sécurité incendie et d'aide à personne. Donc, c'est ce que je dois veiller au bon fonctionnement du bâtiment, de voir si tout est bien en vacuité, pour pas qu'il y ait de problème s'il doit y avoir une évacuation. Et en parallèle, donc, je suis agent d'accueil et j'ai des petites missions qui sont parfois pas très agréables, mais bon, après, voilà. Sinon, le travail en lui-même est super sympa, mais c'est vrai que c'est dur parce que c'est surtout les amplitudes horaires qui sont lourdes à porter, en fait. C'est pas le travail en lui-même, c'est vraiment les amplitudes.
Est-ce que tu aimes, c'est d'accompagner, c'est d'accueillir les artistes ?
Moi, personnellement, oui. C'est pour ça que avant, j'étais à la billetterie et c'est pour ça que je suis devenue agent d'accueil parce que j'avais besoin de ce contact, de bouger, de vivre quoi dans le bâtiment.
Vous avez fait une formation en plus pour...
Alors, j'ai pas fait de formation d'accueil parce que j'ai toujours vécu dans la vente. Avant, donc le commerce, le relationnel, ça me connaît un peu quand même. Mais j'ai fait une formation d'agent de sécurité incendie, ouais. Ça, oui. J'étais obligée.
Et c'est... En fait, est-ce que c'est mieux pour... en fait, sur votre cursus scolaire... Enfin, pas...
Sur mon CV, en cas où...
Est-ce que c'est plus... C'est mieux vu quand vous avez une...
Une formation de SIAP, ça reste un diplôme, donc mieux vu, après ça dépend comment tu l'entends, mais si demain je quitte la fonction publique et je peux prétendre à travailler dans la sécurité incendie, ouais. Parce que ça reste un diplôme, c'est pas qu'une formation, voilà, donc c'est un diplôme, et ça reste une formation, mais ça aboutit à un diplôme, et c'est très important, voilà.
Mais ce que Myriam aime bien, c'est justement accueillir les artistes. Et comme on accueille à peu près au moins 1 spectacle par semaine, et parfois 2, ça veut dire que
les mêmes artistes.
Le travail est très varié, parce qu'à chaque fois, c'est des spectacles différents, et surtout des personnalités différentes. Et les artistes ont la particularité d'être une personnalité singulière.
Parfois c'est... exigeant, parfois cool, parfois moins cool.
Parfois illuminé. Et ça demande de savoir s'adapter, et Myriam le fait très bien.
Voilà. Et est-ce que, quand j'étais à des bergeries, est-ce que vous prenez des stagiaires, je veux dire, et dans quel domaine ?
Je te sens venir, toi.
Oui.